Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous, atmosphère particulière ce matin à Nouakchott lorsque l'on a appris que dans la nuit, l'ancien président de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, a été arrêté, il a été placé en détention, ceci par le juge du pôle de lutte anticorruption, donc du parquet de Nouakchott, la section ouest de Nouakchott, ça a été confirmé par ses avocats. Ceci a été causé par le refus de l'ancien président mauritanien de se présenter à la police, comme l'exigent les conditions qui sont les siennes, puisqu'il a été placé en résidence surveillée. Alors depuis ce procès, qui est un feuilleton politique, politico-judiciaire en Mauritanie, les avocats de l'ancien président parlent d'un règlement de compte politique. Ils réfèrent à l'article 93 de la Constitution pour exprimer le fait qu'il devrait bénéficier d'une immunité. Son successeur, l'actuel président mauritanien, estime, lui, qu'il n'a pas à interférer dans l'indépendance de la justice mauritanienne qui mène l'affaire telle qu'elle l'entend. L'ancien président Ould Abdelaziz est inculpé, ainsi qu'une dizaine d'autres personnalités, dans des faits de corruption, blanchiment d'argent ou encore enrichissement illicite durant les années où il était au pouvoir. Elle a commencé comme prévu aujourd'hui, 23 juin, cette conférence de Berlin, la seconde du nom, une conférence consacrée à l'avenir de la Libye, bien évidemment en présence de toutes les grandes nations impliquées dans ce dossier, ainsi que le Premier ministre Dbeiba, qui est le responsable de la formation gouvernementale de transition, accompagné d'une équipe de collaborateurs. Alors, bien évidemment, il y a le dossier politique. Est-ce que oui ou non la Libye d'aujourd'hui va réussir à aller jusqu'au bout du mandat qui est le sien, à savoir réussir à organiser des élections avant la fin de l'année? Mais il n'en reste pas moins que la demande immédiate à la fois du chef de la diplomatie allemande, du chef de la diplomatie américaine, la volonté répétée de la France, la volonté répétée des Égyptiens, c'est le départ des forces étrangères. L'expression est intéressante, forces étrangères, ce mot englobe 1. Les mercenaires qui sont sur place, 2. Les forces étrangères conventionnelles, à savoir les Turcs, également les sociétés militaires privées, ainsi que tous les combattants sous quelque nationalité que ce soit. Ils doivent quitter le pays pour que les Libyens puissent s'emparer à bras-le-corps de leur destin sans avoir à référer à des forces ou à des diplomaties étrangères. Sachant que nous sommes actuellement dans une situation très compliquée, puisqu'on se souvient qu'avant de partir à Berlin, le Premier ministre Dbeiba a inauguré ce week-end la réouverture de la route Misrata-Sirte, qui est une route côtière symbolique, parce que symbolisant la rupture de la continuité territoriale entre l'Est et l'Ouest. Donc cette réunification, cette réouverture de la route a suscité énormément d'espoir, mais il n'en reste pas moins que la commission militaire mixte 5+5 vient d'annoncer qu'en fait la route ne sera pas réouverte au grand public, en tout cas pas dans l'immédiat. Il y a encore des problèmes techniques qui doivent être réglés à la fois par les milices, par les autorités gouvernementales, par les autorités locales, par les chairs, par tous ceux qui font la vie de cette route qui est aussi une manne, hein, puisqu'il y a des transferts de marchandises qui peuvent s'y opérer. Donc il y a aussi tout cela à organiser. On a eu espoir ce week-end, mais en fait non, ça va être beaucoup plus long que prévu. Il va falloir encore attendre quelques jours et on le craint quelques semaines avant que cette route côtière ne soit effectivement rendue à la libre circulation des Libyens. C'est une étude allemande qui révèle cette information. La situation hydrique en Tunisie fait de ce pays l'un des 10 au monde qui sont le plus en situation de grande précarité. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de perturbations, beaucoup de coupures d'eau dans la distribution de l'eau. Ceci par exemple dans la ville de Gafsa, mais il y en a d'autres. Alors à la fois il y a des pénuries sur la ressource, c'est-à-dire tout simplement il faut gérer la ressource et c'est compliqué. Les autorités locales et régionales et nationales travaillent sur ce dossier, mais il y a malgré tout cette pression de la population, mais qui est tout à fait normale et légitime. Les gens boivent, ils ont besoin de l'eau pour vivre, mais il n'y a pas assez de ressources. Et on se retrouve dans une situation qui est tout de même assez incroyable, c'est qu'on a des actes de vandalisme avec des gens qui volent du matériel dans des puits pour ensuite, après avoir dérobé ce matériel, aller creuser d'autres puits à d'autres endroits pour essayer de se servir directement dans les nappes phréatiques. Une enquête vient d'être ouverte puisque cela s'est passé donc sur la ville de Gavsai. C'est tout à fait inquiétant parce que ça indique vraiment le désespoir des gens qui n'ont pas d'eau et qui se disent bah voilà, on va voler du matériel pour pouvoir créer chez soi un puits qui nous permettra de subvenir à nos besoins en eau. La Tunisie, ce sont aussi les déclarations de l'ambassadeur de France qui demande à Tunis, au palais de Carthage, de prendre ses responsabilités, d'accepter le retour des ressortissants tunisiens qui se trouvent actuellement sur le sol national français, certains en situation illégale, d'autres présentent une menace sécuritaire pour la France. Paris réclame à ce que Tunis fasse un effort et accueille des ressortissants qui sont les siens et qu'ils rentrent au pays et que ceux-ci cessent de faire peser une menace sur l'ordre en France. La situation toujours difficile sur le front du coronavirus. 105 décès hier. Il y a toujours 4 gouvernorats qui ont réclamé le retour du confinement. Des mesures sont prises ici et là dans le pays pour essayer de limiter les cas contacts, essayer de faire en sorte que les clusters ne soient pas amenés à relancer plus qu'il n'est la situation pandémique dans ce pays qui reste malgré tout l'un des pays du Maghreb aujourd'hui les plus touchés par la pandémie de coronavirus. Et pour clore ce chapitre tunisien qui est conséquent aujourd'hui, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Tunis a décidé de lever l'interdiction de voyage qui avait été mise à l'encontre des frères Karoui, Razi et Nabil, qui sont respectivement députés et présidents de Khaltounès et qui sont toujours suspectés d'affaires de blanchiment et d'évasion fiscale. Mais en tout cas, il a été décidé de lever l'interdiction de voyage qui a été émise à leur encontre. Le ministère américain de la Justice le dit, il l'annonce, il a saisi 36 sites web qui étaient liés à l'Iran et pour beaucoup, ces sites web faisaient beaucoup de désinformation ou appelaient à des actes de violence. Donc il a été décidé de la part des autorités américaines de stopper les activités de ces sites web puisque ceux-ci en fait nuisent également à la lisibilité de la situation qui est souvent complexe, c'est vrai, entre les États-Unis, entre l'Iran, le monde, l'Iran, le Moyen-Orient, l'Iran et l'Occident, mais il peut y avoir des opinions qui sont exprimées ici et là, mais lorsque cela touche à de la désinformation et que celle-ci est organisée, le ministère américain de la Justice sonne la fin de la récréation et donc interdit la continuation des activités de ces sites web.
Guerre civile en Syrie.
Une escale syrienne aujourd'hui avec une grande inquiétude avant que l'été n'arrive. Les ressources en eau qui sont toujours affaiblies par les retenues d'eau qu'il y a actuellement en Turquie sur l'Euphrate. Les Turcs gardent l'eau pour eux et sinon en amont il y a beaucoup de difficultés pour avoir de l'eau à la fois pour boire mais aussi pour pouvoir arroser les champs. Ceci vaut pour la Syrie ainsi que l'Irak. Mais là plus spécifiquement sur le cas syrien, c'est un rapport de la FAO qui a estimé aujourd'hui que la Syrie doit importer 1,5 million de tonnes de blé. Aujourd'hui, le gouvernement de Damas a dit qu'il allait être en capacité de produire 1,2 million de tonnes de blé. Mais en fait, ce sont là des estimations certainement très ambitieuses, peut-être même un peu de politique de la part de Damas. Le fait est, c'est que vu la sécheresse, vu la désorganisation, vu la guerre qui continue dans le pays, notamment dans le nord, il est fort probable que Damas ne soit pas en mesure de récolter 1,2 million de tonnes de blé. Il en faudrait plus, 1,5. Donc le pays manque de blé, il manque de financement pour pouvoir importer de grandes quantités de blé, donc pour pouvoir tout simplement nourrir sa population. La Russie, qui est l'un des grands exportateurs, puis la Russie qui est alliée de Damas, qui a soutenu, voire même qui a sauvé le régime de Damas en 2015 en intervenant. La Russie donc a déclaré qu'elle allait vendre 1 million de tonnes de céréales à la Syrie, ceci au cours de l'année à venir. Il reste encore 500 000 tonnes de blé à trouver, donc c'est pas encore facile, mais bon, cette aide en tout cas va l'aider à gérer la demande intérieure globale du pays, qui est estimée aux alentours de 4 millions de tonnes de blé par année en Syrie. Pour ce qui est du PAM, on estime qu'il y a aujourd'hui un nombre record, plus de 12 millions de personnes, 60% de la population qui souffre d'insécurité alimentaire, de faim, et aussi qui vit une sorte de dépendance par rapport à l'eau et aussi par rapport au pain. Le pain est devenu, entre guillemets, une denrée rare, en tout cas une denrée qui a vu les prix s'envoler plus de 200% en certains lieux de la Syrie. Les prix du pain, cette denrée tout à fait essentielle, ont augmenté à tel point que les Syriens, pour certains, n'ont plus l'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires les plus essentiels. Il faut essayer de trouver des solutions. Et là, la Syrie souffre de cette partition qu'il y a avec le Nord, notamment cette zone qui est tenue par les Kurdes et qui est une zone actuellement très riche en céréales. Il y a aujourd'hui pénurie d'eau, on sait que la saison sera moins bonne, mais malgré tout, les Kurdes, eux, aujourd'hui, ont des champs de blé, de céréales. Ils vont pouvoir récolter et tout porte à croire que les Kurdes vont garder les ressources, les précieuses ressources, et ne vont pas les distribuer sur l'ensemble du pays, ceci en raison de la guerre. Et ceci donc qui prélude d'un été qui sera extrêmement difficile à la fois pour la gestion des eaux, du peu d'eau qu'il y a en Syrie, et aussi la gestion des aliments, du peu d'aliments que l'on peut trouver en Syrie. Et parmi ces aliments, le plus essentiel, je le répète, mais il est vraiment essentiel parmi eux, le pain qui devient de plus en plus cher, de plus en plus rare. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.